Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Je suis très content de vous retrouver pour cette foire aux questions en ce mercredi 3 avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à discuter chiffon. J'ai une guitare mystère dont vous voyez la jolie ta couleur qui paraît sans doute peut-être un petit peu jaune à l'écran, mais en fait, en réalité, elle est butterscotch. Peut-être ça vous donnera une petite indication sur le genre de guitare que je vais vous montrer ce soir. Allez, je vous fais pas plus poireauter que ça. Ladies and gentlemen, je vous présente la Rode One de chez Valco Guitars. Alors là, encore une fois, elle apparaît très très jaune, mais je sais pas, non, j'y arrive pas complètement. Il y a quelques endroits où on voit un peu. C'est très difficile en fait à faire apparaître cette finition qui est en polyuréthane translucide, mais avec un corps en châtaignier, et donc c'est un peu une finition butterscotch où on aperçoit, et donc qui est translucide, où on voit les veines du bois qui sont derrière. Donc bah, je me propose sans plus attendre et pour faire venir la foule en délire, de vous faire un petit peu de son avec ça, voilà, et puis on en reparle un petit peu par la suite. Allez, c'est parti. Voilà, ça sonne ou ça sonne cette guitare. Honnêtement, c'est très très joli, hein. C'est magnifique. Juste comme ça au doigt, j'avais juste mis un petit peu de réverb stéréo pour causer un petit peu d'espace entre les oreilles. Et puis c'est tout. Au niveau matos, je suis branché aujourd'hui sur mon préampli Made in Japan de chez Peace Hill FX, le ODS Tube Preamp, donc voilà, inspiré Overdrive Special, donc inspiré Dumble. L'émulation de HP est fournie par cette toute petite boîte ici qui s'appelle, de chez Palmer, qui s'appelle le River ILM, donc le River ILM, qui est une boîte de DI, mais qui fait aussi émulation de HP avec trois positions. On a une position normale, bright et puis mellow. Là, je suis sur la position bright et le son que vous entendez, donc c'est le câble XLR qui est ici, qui est renvoyé vers la table de mixage et j'ajoute la reverb stéréo que vous avez entendu à l'instant sur la console. Donc, ça nous donne ce genre de choses. Allez, je vous joue encore un petit peu de son. On va rajouter du delay ping-pong parce qu'on est des fous, quoi. Thank you. La vie est tout de suite un peu plus belle hein, dès qu'on met un délai ping-pong. Hein. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. On regarde, on écoute un petit peu ce que ça donne au médiator. Là, j'ai enlevé le délai ping-pong. Et on voit un petit peu ce que ça fait quand je fais des riffs comme ça. Voilà, cette guitare sonne terrible, c'est vraiment une machine à riff infernale. C'est équipé de micros Q-Pickups, je crois que je ne sais plus si je vous l'ai dit, enfin voilà, maintenant je le dis. Les trois positions fonctionnent très bien, j'aime beaucoup la position avec les deux micros ensemble, ça donne franchement un chouette ensemble. Je vous refais encore un petit peu de riff, je vais rester sur le son. Non, je vais revenir sur le son clair là, du Peace Hill. Voilà, si vous le voyez ici, comme ça. Donc là, en rouge, ça veut dire son clair. Hein. Voilà, en japonais, c'est comme ça que ça marche. Et on va voir ce que ça donne quand je rajoute la Blues Driver. Et puis après, comme on est des fous, la TK de Elena. Là, j'avais rajouté, vous l'avez sans doute entendu, le slapback. Et maintenant, j'enlève la Blues Driver et je vous mets la TK. Attention, gros son. We'll be right back. Voilà, allez, j'arrête parce que sinon je vais passer toute la soirée à faire des gros riffs comme ça. C'était donc, ladies and gentlemen, la Road One de chez Walco Guitars. Une guitare qui va passer quelques semaines ici au showroom, voire peut-être un peu plus. Donc, si vous voulez venir l'essayer, vous connaissez le principe. Si vous êtes abonné à la chaîne guitare, ça fait partie des abonnés... Des bonus, enfin c'est pas des abonus, des avantages de l'abonnement, pardon, de pouvoir venir ici au showroom quand vous voulez sur rendez-vous pour essayer des guitares, enfin des amplis, des pédales, voilà, des pré-amplis comme le beau matos qui est ici et ainsi de suite. Et si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, vous pouvez le devenir, mais vous pouvez aussi rentrer en contact avec Nicolas Valkoviak de Valco Guitars, discuter avec lui et puis valider si c'est pertinent de venir ici. Pour tester comme ça cette guitare. C'est le but du jeu, c'est le service showroom que je propose comme ça aux abonnés, enfin aux luthiers qui sont abonnés à la chaîne guitare. Voilà. Valco Guitars, hein, ça se trouve à l'adresse Valco, faut pas dire Walco, faut dire Valco, à chaque fois je me trompe. Voilà, et donc vous voyez la Road One qui est ici, et elle est à. Alors là, il y a marqué 1690, j'ai un doute, il me semblait que c'était 1008. Enfin, en tout cas. Pour de la belle guitare de luthier comme ça, moins de 2000 euros, c'est franchement très très bien, c'est magnifique. Et donc je vous encourage évidemment à découvrir ou à redécouvrir ce luthier. Si vous voulez des infos au niveau du préampli, vous allez sur peacehillfx.com. Voilà, on a déjà eu l'occasion d'en parler puisque c'est un matos en fait que je viens de récupérer. Hein. Il était en tournée matos un petit peu partout en France. Et là, il était chez Thomas Sarodi et là, je viens de le récupérer. Donc du coup, j'étais tout content. Donc je l'ai rebranché. Et donc, pour l'émulation de HP, donc Passive Speaker Emulator et DI Box, donc elle fait DI, vous pouvez complètement désactiver la partie émulation, c'est vous le faites avec le petit switch qui est ici, là, et il y a une position, voilà, bypass, à ce moment-là, c'est une boîte de DI, et puis il y a les trois positions normales, bright et mellow, qui permettent d'avoir des émulations de HP avec plusieurs tonalités différentes, c'est 100% passif. Voilà, c'est tout petit, vous voyez la taille de ma main, c'est beaucoup plus petit que le préampli. Ça marche même directement, vous pouvez mettre ça en sortie de votre pedalboard et puis envoyer le son à XLR comme je le fais ici sur votre interface audio ou sur la sono et c'est vraiment royal au bar. Voilà, donc je vais aller dire bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui sont dans la chatroom, voilà, qui sont là. Donc salut Vincent, salut Bruno, salut Pierre. Salut Arnaud, bonjour Louis, et puis voilà, donc Louis qui nous dit le micro-manche de cette guitare est une tuerie. Ah bah oui, c'est vrai que toi tu as eu l'occasion de la tester puisque tu étais ici lors du concert de John Mayer dimanche et que tu as pu l'essayer, voilà. Sympa la fin de la touche avec, la fin de la touche à côté corps. Alors attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que tu veux dire... tu veux dire quoi? Tu veux dire avec le réglage ici, comme ça, ou le fait qu'elle soit un petit peu en arrondi? C'est vrai que c'est un joli détail, effectivement. Et avec un réglage de manche qui se fait ici, un peu à la Music Man, avec la petite molette ici, plutôt que par un réglage en haut qui oblige à faire un trou et donc à fragiliser cette partie. Parfois, les luthiers n'aiment pas ça. Et moi, je trouve que cette solution ici, avec le réglage ici, est très, très astucieuse. Voilà, j'essaie de vous montrer. Non, on voit pas. Elle fait définitivement beaucoup trop jaune à l'image. Mais c'est pas du tout jaune poussin. Il y a vraiment cette couleur un peu moutarde et qui est translucide. Mais là, on voit un petit peu sur le côté, là. Vous voyez, là, en tout cas, on voit un peu les veines du corps. Et c'est du châtaignier. Et cette guitare est assez légère. Elle fait à peine 3 kilos. Et honnêtement, quand Nicolas m'a amené ça l'autre jour, j'étais franchement bluffé parce que c'est très bien et c'est pas très cher. Hein. Faire des guitares de luthier en dessous de 2000 balles, c'est compliqué, des guitares électriques. Et il y arrive et c'est vachement bien. Voilà, j'ai plein de choses à vous raconter. On va passer au travers des diverses publications de la semaine. Évidemment, je vous rappelle pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne guitare que vous pouvez le faire quand vous voulez, juste pour 24 heures, uniquement pour 2,99€. Voilà, vous pouvez binge-watcher la chaîne guitare quand vous voulez, allègrement et sûrement. Si vous avez envie de vous abonner, bah vous cliquez ici sur le bouton s'abonner en haut à droite. Il y a donc trois formules. Donc la formule 24 heures que je viens de vous présenter qui permet d'accéder à tout le contenu. Donc les 1500 interviews, les centaines de reportages, de tests matos indépendants, etc. Et si vous voulez avoir la totale, comme certains qui sont dans la chatroom, vous avez l'abonnement soit à 19€ par mois, qui permet d'accéder à tout le contenu, au forum pour discuter chiffon, aux tournées matos. Donc ça a été le cas par exemple donc, de la tournée matos de la piste Hill Effect, donc ce préampli qui a fait la tournée. Je sais plus, je crois que j'ai pas encore fait tourner la Palmer, mais je pense que je vais l'envoyer en tournée, parce que franchement c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc le troisième avantage, c'est la tournée matos, et le quatrième et dernier, c'est la possibilité de venir ici au showroom quand vous voulez pour tester du matos, ou des fois c'est juste pour le plaisir de discuter chiffon. Et bien sûr, soit 19€ par mois et il n'y a évidemment pas d'engagement, hein, c'est fini hein, toute cette époque-là, ou vous payez 199€ d'un coup et comme ça vous avez deux mois offerts avec exactement les mêmes avantages, exactement la même chose. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et si vous dites, ouais, bon, quand même, c'est un peu cher, 19€, eh bien, c'est pour ça que j'ai mis en place la formule à 2,99€, parce que franchement, ça permet d'échantillonner un peu le contenu. Et c'est quand même le gros avantage de la chaîne guitare, c'est ça. Il y a aussi, encore une fois, la tournée matos, les discussions sur le forum privé, etc. Petit rappel en parlant des tournées matos d'ailleurs. Vous cliquez, si vous voulez savoir, vous dites, bon, bah alors c'est bien joli, il nous parle de tournées matos, mais quels sont les matos qui tournent? Eh bien, vous allez sur lachaîneguitare.com, vous cliquez sur l'option tournée matos ici, et vous avez à jour donc la page qui liste toutes les pédales qui sont en cours de tournée. Alors là, la pédale qui est ici, là, vous voyez qu'elle est là sur mon bureau ici au showroom, donc elle n'est plus en tournée matos, donc je vais la retirer, elle est ici. Mais les 9 autres qui sont là, elles sont en tournée matos, donc à partir du moment où on est abonné à la chaîne guitare, vous avez la possibilité de tester ces pédales chez vous gratuitement pendant une semaine. Et quand la semaine est bientôt écoulée, je vous contacte. Je dis, bah tiens, le prochain, c'est tel et tel. Vous envoyez les adresses, etc. Et c'est comme ça que du beau matos circule. Voilà, c'était le petit rappel que je voulais absolument faire, qui est important. Et il y a aussi un petit rappel que je voudrais faire. Pour ceux qui se disent, ouais, mais bon, c'est bien gentil, mais moi, j'en ai marre des abonnements, etc. Ben, je vais vous donner un truc pour regarder la chaîne guitare gratuitement. Hein ? C'est pas Royal au bar, ça ? Alors, c'est pas compliqué. Vous allez sur lachaîneguitare.com, ou même, vous n'avez même pas besoin d'aller sur lachaîneguitare.com, en fait. Vous allez dans vos App Store et vous téléchargez l'application qui s'appelle LCG. LCG, ma chaîne guitare, voilà, c'est pas trop compliqué. Donc, c'est disponible sur iPhone et puis Android. Et puis, chaque jour, vous avez la vidéo du jour qui est en accès libre. Voilà, donc là, il y a un screenshot de l'application. Donc, le jour où j'ai fait le screenshot, bah, c'était une interview de Tanguy Kerleroux qui venait présenter Riffwave, son groupe Riffwave. Mais si vous y allez aujourd'hui, eh bien, on va le faire en même temps. Je le fais avec vous. Donc, j'ai mon téléphone. Évidemment, moi, j'ai l'application LCG. Donc, voilà, elle est ici. J'appuie sur l'application LCG. Hop, elle se lance. Vous voyez le gros médiateur, le logo. Et là, vous allez voir apparaître donc la vidéo du jour qui n'apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être l'effet démo. Voilà, c'est l'effet démo, sûrement. Ça doit arriver en tout cas. Vous lancez l'application LCG, le mec il a pas testé avant de lancer son truc et là ça ne marche pas. Bah c'est pas grave, en tout cas croyez-moi sur parole, vous avez ici normalement la vidéo du jour qui est disponible. Et alors évidemment, et comme je publie beaucoup, bah, le lendemain ça sera une autre vidéo, donc évidemment vous n'avez pas accès à l'historique, mais vous avez accès à toutes les vidéos comme ça. Voilà, c'est un petit truc que je vous donne. Ou pareil, si vous voulez, si vous dites, ah bah tiens, ouais, bon, je suis pas sûr, même de 99, etc., quand même, eh bien, ça vous donne une manière de faire un test. Grande nouvelle aujourd'hui, puisque je suis très content d'annoncer une série qui va démarrer très bientôt, qui va s'appeler les galères de luthiers. Voilà, les plus gros fails ou les galères des meilleurs luthiers au monde. Alors, il faut que je vous raconte l'histoire. Il y a quelques temps, je suis allé faire une interview chez Alain Keguiner, qui est un de nos tout meilleurs luthiers français, qui est installé à Paris, pas très loin de chez moi, d'ailleurs, ici, là, enfin, pas très loin du showroom, là, à quelques rues. Et on parlait des anecdotes des luthiers, et voilà, et puis en discutant avec lui, je me disais, mais ça serait vachement bien de faire ça, de faire une série où les luthiers racontent les fails, les galères qui leur sont arrivées. Et donc, alors, je ne l'ai pas fait avec Alain Keguiner, parce qu'on a fait une longue interview, etc. Mais je l'ai fait avec pas mal de luthiers. Et excusez du peu, c'est parmi les meilleurs luthiers du monde. Alors, bien sûr, il y a pas mal de luthiers français, mais il y a aussi pas mal d'étrangers. Donc là, j'en ai déjà fait une quinzaine, dont la publication est à venir. Donc, pour ceux qui sont abonnés, ne vous précipitez pas, ce n'est pas encore en ligne. C'est une annonce que je fais. Donc, il y a du Virgil Pilon, du Franck Cheval, Egon Rauscher de Soul Tool, c'est un luthier suisse. Isaac Jenk, qui est un luthier américain, Christian Anstad de Magneto Guitars, Léo Buendia qui est un luthier d'origine argentine qui doit être américain maintenant, Michel Pellerin qui est canadien, Julien Roux de Wild Custom, Brice Roguero qui est français, Bruno Bacci qui est italien, Rainer Tosch qui est allemand, Steve Klein qui est américain, Tony Giraud voilà, qui est français, et enfin Michael Bashkin américain et Michiro Matsuda qui est un japonais maintenant installé aux États-Unis. Donc honnêtement, vous allez vous régaler avec ces histoires puisque... Bah, ils racontent ce qui leur est arrivé quand ils ont fabriqué une guitare et puis qu'il y a eu tel ou tel truc qui arrive. Évidemment, je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé. C'est toutes les punchlines qu'il y aura dans les vidéos que vous allez regarder. Mais honnêtement, vous allez vous régaler. Donc là, j'en ai déjà une quinzaine en stock. Et l'objectif, c'est pour que je continue à chaque fois que je rencontre un luthier, que je le fais ou je le refais en interview, et ben, de lui reposer la même question pour aller alimenter mes galères de luthier. Donc voilà, ça va paraître très très bientôt, dès la semaine prochaine. Ça c'est l'ordre dans lequel je les ai enregistrés. Donc là il y en a déjà une quinzaine, donc vous avez déjà je sais pas si je vais les publier au rythme d'un par semaine ou un tous les 15 jours, mais vous en avez déjà pour quelques mois juste avec ce qui s'en vient. Et je suis assez curieux d'avoir vos avis d'ailleurs par rapport à ça, parce que moi j'ai trouvé que c'était une manière originale de mettre en avant leur savoir-faire. Non pas que c'est parce qu'on sait faire des conneries qu'on sait faire des belles guitares, mais c'est parce que c'est en faisant des conneries que très souvent ces gens-là, qui sont des artisans incroyables, ont développé et ont atteint le niveau d'expertise qu'ils ont maintenant pour fabriquer des guitares. Bah, donc, comme par exemple cette Valco. Alors, Nicolas Valkoviak, quand il est venu l'autre jour, on a fait une interview et j'ai oublié de lui poser la question. Mais la prochaine fois que je le croise, c'est promis, je lui ferai avouer quelques anecdotes. Et ils en ont tous ceux à qui j'ai demandé, tous ont accepté volontiers parce qu'ils trouvaient ça rigolo de partager un peu ces histoires. Voilà, donc je retourne dans la chatroom et je dis bonsoir donc à Pascal, à Manix et à Louis, voilà, qui est ici, qui dit qu'il a super hâte de voir ça. Et ben écoute, je pense que tu devrais te régaler, parce qu'honnêtement, moi je me suis bien fendu la poire à le faire, et c'est je remercie encore les luthiers qui m'ont suivi avec ce projet un petit peu farfelu. Tant qu'on est dans les luthiers, une autre publication qui est sortie cette semaine, c'est la visite du Custom Shop de chez Schecter. Alors, vous savez que... Enfin, vous savez ou vous ne savez pas, mais... Enfin, si, vous le savez, je pense, si vous suivez la chaîne guitare, que je vais chaque année à Los Angeles pour le NAMM Show. Et après, comme il y a énormément de choses à faire à Los Angeles, parce qu'il y a évidemment un tissu économique qui est énorme autour de la musique et en particulier autour de la guitare, j'essaie d'aller rencontrer des luthiers, de visiter des usines, etc. Et là, cette fois, grâce à un contact avec Nick Johnston que j'avais croisé à Montreux, j'ai pu aller faire la visite du Custom Shop de Schecter, donc qui se trouve à Los Angeles. Donc, eh ben, écoutez, je vous propose de regarder un petit bout. On va pas tout regarder, bien sûr, parce que sinon l'abonnement perdrait un peu de son intérêt. Mais ça dure 25 minutes, on s'en regarde un petit bout. C'est parti. I am here at the top secret location of the Schecter Guitar Research Custom Shop. I am with Adam. Adam, are you still alive after the NAMM show?
I avoided the NAMM show, so I'm perfect. I'm okay. As good as it gets. Better than good.
Okay.
So where are we here? What is happening here in that place?
So this would be the custom shop. This is where all of our USA production stuff happens. This is actually where guitars start.
Okay.
Boom, there you go.
Yeah, yeah, yeah.
So as you can see here, everything starts off as a block of wood. You have mm-hmm. different bodies here. You have some necks, some tops over here. Actually, you want to see these? Cooler to look at. Stabilized tops.
Voilà, on va avancer un petit peu pour vous montrer un peu autre chose. Là, il nous montre un top voilà, qui a été rempli avec de l'époxy. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On est allé voir voilà, l'endroit où il y a le super custom shop, super haut de gamme, voilà, où ils font que des trucs du sur-mesure, des trucs assez incroyables. On a vu la guitare de Prince, parce que je ne me rappelais pas, mais voilà, bah, je vous la montre, tiens, la guitare de Prince. Regardez ça, il sort la guitare de Prince, c'est pas incroyable ça?
This was his actual guitar. I believe it was purple and it came back to be painted gold and they added the Floyd to it, but you see all the buckle wear and tear on that.
C'est dingue ça, hein? Voilà, la guitare de Prince fabriquée par par Schecter. Et on a terminé ça, on a terminé la visite avec une interview de, hop là, pardon, voilà, j'ai essayé de trouver une image, voilà, de Michael Cervello, un nom comme ça, Ciravolo, voilà, c'est marqué en haut, pardon, qui est le président de Schecter USA, voilà, donc qui a rappelé un peu tout ce qui s'est passé avec Schecter et compagnie, et ce que c'est maintenant. Donc honnêtement, moi j'étais hyper content de faire ça, c'est toujours hyper intéressant, parce que vous voyez comment sont fabriquées les guitares, les techniques qui sont utilisées, il y a évidemment pas mal de CN, on a vu, enfin vous verrez dans le reportage comment les modèles Nick Johnston sont fabriqués, etc. Et voilà, une belle unité de production, on peut pas vraiment, enfin c'est pas un custom shop dans le sens où c'est pas un atelier où il y a que des luthiers de super haut niveau, il y a aussi beaucoup de, il y a tous les modèles américains qui sont fabriqués là-bas, pas mal à base de CN, etc. Et vous avez l'endroit où il y a les super custom. Là, par contre, c'est un luthier qui fait tout de A à Z. Donc ça, c'était une visite super intéressante. Un autre article a été publié cette semaine. C'est l'histoire de cette guitare. Voilà, c'est la Creamy de Stéphane Bertrand qui nous a raconté une nouvelle histoire de guitare de backstager. En partant depuis le début, quelle était un peu l'inspiration initiale? On voit ici par exemple le corps en frêne des marais qui a été fabriqué par Laurent Jourdan. Ensuite, les différentes étapes, les couleurs, la finition qui a été rajoutée par-dessus, etc. Voilà, donc je vous encourage à aller lire au complet cet article. Ensuite, il y a eu une interview guitare à la main avec Bobby, voilà, qui est la chanteuse qui est là. Où est-ce que je vais mettre? Non, je vais m'enlever, voilà, tiens. Voilà, qui est ici, où je vais me rajouter, je vais me remettre en bas, voilà, voilà, comme ça. Qui va jouer d'ailleurs au Café de la Danse demain soir à Paris. Donc, si jamais vous êtes à Paris, voilà, Café de la Danse, allez écouter Bobby. Moi, j'y serai, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas, je vous le dis. Moi je me suis régalé. Comme style de musique, c'est un peu de la country, un peu de la folk, un peu de l'americana. C'est très bien enregistré, les compos sont vachement bien, elle a une très très belle voix. Si vous voulez vous en convaincre, vous tapez un petit coup de Google et vous allez tomber là-dessus. Ou vous pouvez aussi tout simplement aller sur YouTube, sur l'excellente chaîne guitare, voilà. On va aller sur la chaîne guitare, tiens, je vais me chercher moi-même le mec, il est au summum du culte de la personnalité. Et vous avez dans les vidéos qui sont sorties, voilà, deux sessions qui ont été enregistrées ici au showroom. Donc, Losing You et puis Oh Babe, juste deux guitares comme ça. Glenn Arzell, qui est un musicien que j'aime beaucoup, était venu ici avec sa guitare Furch. Et moi, j'avais prêté la J45 qui appartenait à mon grand frère, à Bobby, donc qui l'a joué. Donc voilà. Et allez écouter ce que fait Bobby, c'est vachement bien. Et évidemment, allez écouter l'interview. Allez, on s'en met un petit bout, parce que vous allez voir, il y a une petite intro. To cross, babe, I know love's not what the rom-com say. I've spent too much time with the TV on. C'est beau, non? Voilà, bonjour à tous, qui dit le garçon. Donc, vraiment une chouette interview, un chouette moment avec, avec Glenn Arzel et puis Bobby, qui ont raconté comment Bobby, comment elle a composé l'album, comment ça a été enregistré, Glenn, comment il a fait ses guitares, etc. Et je me fais un grand plaisir d'aller les voir en concert demain au Café de la Danse. Encore une fois, je le répète, c'est une chouette salle qui est à côté de Bastille. Je crois qu'il y a une première partie, donc j'ai oublié le nom, elle m'excusera. Mais j'ai bien hâte d'y aller. Donc, un Café de la Danse, voilà. Si vous tapez sur billetterie, ça va nous amener où, j'imagine, sur le site du Café de la Danse. Voilà, est-ce qu'il y a la première partie qui est indiquée? Non, c'est pas indiqué. Voilà, bah, en tout cas, 23 euros. Voilà, Café de la Danse, c'est dans le 11e, juste à côté de Bastille. Et c'est vachement bien. Voilà, donc moi, je me suis régalé. Ils sont venus la semaine dernière. Vous avez remarqué d'ailleurs que j'avais déjà cette chemise la semaine dernière. Je vous rassure, j'ai changé de chemise ce week-end, mais bah, ce matin, j'ai remis celle-là. Enfin bon, peu importe, vous en foutez un petit peu. Voilà, autre interview que j'ai publiée, c'est une interview que j'ai faite au mois de janvier avec Joey Londres, que vous apercevez ici. Et je ne pouvais pas vous la sortir avant, puisque en fait, c'est une démonstration d'un nouveau préampli de chez DSM & Humboldt, le Simplifier X, voilà, qui vient de sortir là, il y a 4 jours. Et donc, j'étais, comment on appelle ça, non pas un NDA, parce qu'il n'y avait rien signé, mais je ne devais pas publier l'interview de Joel Andreth, où il fait une démo du Simplifier X avant qu'ils aient sorti le morceau. Avant qu'ils aient sorti le préampli, pardon. Et donc, on a fait une chouette interview, enfin je pense, hein, je vous dis ça à chaque fois parce que je le pense vraiment, avec Joel Andreth, et c'est que du velours, quoi. C'est probablement un des tout meilleurs guitaristes de slide en ce moment. Il a un son d'enfer, il chante très très bien, il compose très bien. Vous pouvez écouter n'importe quel de ses albums, Joel Andreth, c'est vachement bien. Allez, on s'écoute un petit peu de Joel Andreth. Je ne me rappelle plus comment elle démarre cette interview, tiens.
I am standing right next to the one only Joel Andreth. Joel, you did a great...
On va aller tout de suite à la partie démo pour que vous entendiez un petit peu de Joel Andreth. Écoutez-moi ça. Honnêtement, c'est hyper beau, quoi. Et il joue, alors là par exemple, il joue pas du tout de slide, mais sinon, voilà, il a c'est un modèle signature, hein, de chez Duesenberg, qui est un petit peu particulier, avec trois micros, avec le micro, avec le vibrato Duesenberg bien connu. Et donc le Simplifier X, voilà, que vous apercevez derrière moi. Si tout se passe bien, je devrais en recevoir un, donc je vous en ferai un test, bien sûr. Et évidemment, ça partira aussi en tournée matos. Alors, comme ça vient du Chili, ça risque de mettre un petit peu de temps, voilà, mais j'espère que ça pourra se faire. On enchaîne avec l'autre publication. C'est une guitare dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques mois maintenant. C'est une PRS S2 Studio. Alors S2, pour ceux qui sont perdus un peu dans les gammes chez PRS, ce sont des modèles qui sont des guitares qui sont des guitares américaines, mais c'est la gamme sans les tables super flammées, etc. Enfin, toutes les gros équipements, les grosses PRS comme on les entend. Donc là, vous voyez que c'est une peinture qui est opaque, toute simple. Avec une configuration SSH, alors peut-être vous dites, bah attends, c'est des humbuckers. Non, ce ne sont pas des humbuckers, ce sont des micros un peu de type Dynasonic. Je pense qu'on les voit un peu mieux ici, voilà. Et cette guitare fonctionne super bien. Donc évidemment, j'en ai fait un test que je vous propose d'écouter dans cette vidéo. Une autre guitare qui est passée ici il n'y a pas très longtemps, c'est la Concorde de chez Ted Guitar. Voilà, une guitare qui avait fait sensation à Montrouge, bah parce que de par sa forme inspirée de l'avion Concorde, de l'avion supersonique, et aussi parce que vous voyez les petites ailettes qui sont ici, les petites LED qui sont derrière, qui permettent d'avoir de la lumière. Voilà, donc c'était un test de matos que je vous propose. On enchaîne avec une autre guitare un peu en métal, mais cette fois c'est le contraire, c'est le manche qui est en métal et le corps qui est en acajou. C'est les guitares de Alexandre Gletti, qui est un luthier qui était basé en Allemagne jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et maintenant qui est à nouveau installé en France. Je pense qu'il est en Savoie ou en Haute-Savoie, je ne sais pas trop où est-ce qu'il est. Et alors c'est une guitare plutôt pour faire de la musique musclée, hein, des trucs un peu détunés, etc. Et elle a la particularité que donc, le manche est en alu, je pense qu'on voit un petit peu... Eh ben non, j'ai pas mis de photo de la guitare, bah, peu importe. Mais en tout cas, croyez-moi sur parole, voilà, j'essaie de vous le montrer un peu plus haut. Vous voyez que la touche ici, elle est faite en... Enfin, la touche est en bois, mais par contre, le manche, lui, il est en aluminium. Et enfin, je voulais aussi vous montrer un plugin de FreeAmp, voilà, FreeAmp de Bluecat Audio, qui est la version gratuite, en tout cas une version limitée de Axiom, qui est la grosse suite avec tous les effets, tous les amplis, etc., stéréo et compagnie. Et il y a une version gratuite de FreeAmp bah, qui sonne très très bien. Si vous dites ouais mais bon moi je sais pas trop utiliser les plugins, des fois c'est trop compliqué, voilà, vous voyez la tronche que ça se règle comme un ampli, c'est très facile, et j'ai publié un petit test, je vous en fais écouter un petit bout, tiens, vous allez voir. Le son de guitare il vient de FreeAmp et le reverb et délai viennent de GarageBand, hein. Ça sonne honnêtement terrible. Encore une fois, hein, j'insiste lourdement, c'est gratuit. Vous allez sur le site Bluecat Audio et vous le téléchargez. Je pense que je me suis mis ici, vous cherchez FreeAmp sur le site de Bluecat Audio. Vous l'installez, c'est sous forme de VST. Donc là, par exemple, moi, pour le test vidéo, je l'avais utilisé dans GarageBand. Et puis, ça marche très bien. Là, il y a le Classic Drive que je vous ai fait écouter. Il y a le Classic Clean et le Modern Drive qui sont Modern Drive, donc avec beaucoup de gains, plutôt pour faire des trucs bien énervés. Classic Clean qui est plutôt inspiré Fender. Et donc voilà, encore une fois, si vous dites « Ah oui, mais non, je ne suis pas sûr, les plugins », essayez ça, ça fonctionne très très bien. Voilà, bah écoutez, je crois que ça fait le tour des publications, des choses que je voulais vous montrer. Je crois que oui, je vais aller jeter un petit coup d'œil dans le chatroom pour voir qu'est-ce qui se passe dans la chatroom, là. Je vais me mettre par au-dessus, là. Arnaud Bourges qui nous dit « ça va être excellent, ça, le bêtisier des luthiers ». C'est vrai que j'aurais pu appeler ça le bêtisier des luthiers, parce que souvent, c'est ça, hein. L'appli LCG installée et ça fonctionne nickel. Ah, bah Pascal, ça fait bien plaisir, merci beaucoup. Arnaud qui dit « très belle découverte que Bobby ». Donc encore une fois, Bobby, hein. Allez-y, mangez-en. Si vous êtes sur Paris, vous êtes disponible demain, moi j'y serai. Ça sera une occasion de s'y croiser. Et l'album est vachement bien. Je ne sais plus s'il est disponible sur Spotify. Je pense que oui. Je vais vérifier tout de suite, hein, pendant que je vous parle là. Je vais sur Spotify et je tape « Bobby Music ». Est-ce qu'on voit l'album ? Oui, on voit l'album, voilà. Donc l'album, voilà. Si vous voulez pas acheter d'album, voilà. The Sacred in the Ordinary. Elle parle anglais bien mieux que moi, avec un bien meilleur accent, et c'est vachement bien. Honnêtement, allez écouter l'album, c'est que du velours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la chatroom ? Sinon, voilà, très belle découverte. Le Simplifier X. Mais oui, Vince, toi qui avais testé la version précédente de Simplifier, je pense que tu vas bien aimer. Arnaud, voilà les backstagers. Ils sont déjà là en train de se préinscrire sur les tournées matos, alors que je les ai pas encore. J'ai pas encore reçu le matos. Hein. Mais j'ai envoyé donc un message à Rano, là, mon contact chez DSM and Humboldt. N'hésitez pas vous aussi à les contacter et vous dire oui, il faut absolument que tu envoies un Simplifier X à la chaîne guitare pour qu'on puisse le tester. Et il y a Laurent Jourdan qui est là dans la chatroom. Voilà, il est là. Laurent, salut Laurent, comment est-ce que ça va ? Laurent, peut-être que tu viens d'arriver, mais j'ai montré l'article que Stéphane a écrit pour présenter la très jolie guitare que tu lui as fabriquée, donc la Creamy, avec cette, voilà, cette plaque, les micros, Epcat, sérielle, etc. Et c'est une guitare qui est d'ailleurs ici, qui est encore ici au showroom pour une semaine, je crois, quelque chose comme ça. Elle repart bientôt. Stéphane va venir la récupérer, ou c'est Tanguy qui la récupère, je ne sais plus. Voilà, et j'en aurais fait un test complet que je publierai aussi très très bientôt. Voilà, je poursuis dans mes onglets, de quoi je voulais vous parler aussi. Ah oui, il y avait un débat, tiens, avant qu'on attaque les questions. Donc je vous expliquais tout à l'heure que un des gros avantages de la chaîne guitare, c'est de pouvoir discuter chiffon entre passionnés de guitare. Voilà, il n'y a pas de troll, donc on n'est pas d'accord sur tout et c'est très bien comme ça. C'est ce qui fait la richesse de la discussion. Et l'autre jour, je disais, bah tiens, j'ai ici, là, juste derrière moi, là, devant moi plutôt, un baffle FRFR, le Head Rush FRFR 108. Et Fender vient de sortir, il y a quelques semaines déjà maintenant, un nouveau baffle FRFR. Enfin, pas un nouveau baffle, un baffle FRFR, voilà, excusez-moi. Voilà, c'était le FRFR 108, voilà, qui a ce format ici, qui fonctionne très très bien, qui ressemble plus à un retour, voilà, qu'on peut utiliser en tant que sono, qui n'est pas spécifique à la guitare, mais de notre côté, un baffle FRFR, je vous rappelle au fait hein, que FRFR, ça veut dire Flat Range Full Response. Donc, c'est justement pas pour être coloré, mais avouez que le Head Rush, même s'il fonctionne très bien, il ressemble à tout sauf à un ampli guitare. Et donc, sur le forum backstage, j'évoquais l'idée de, tiens, peut-être faire l'achat pour la chaîne guitare du FR12, le Tone Master, le Fender Tone Master FR12, qui est donc la nouvelle offre de baffle FRFR de chez Fender. Alors, vous voyez que ça ressemble à un ampli. Si je regarde le tableau de bord qui est... Où est-ce qu'on le voit mieux? On le voit mieux ici. Ouais, enfin, vous voyez pas grand-chose. Si, voilà, ça va se charger, voilà. Ça ressemble à un ampli. Vous avez un réglage de volume et puis une égalisation à 4 bandes, donc treble, middle et puis basse, et puis la présence voilà, qui fonctionne sous forme de cut. Ça ne coûte pas super super cher, 550 balles, ils annoncent ça pour une puissance de 1000 watts, donc c'est de l'ampli classe D, hein, donc ce n'est pas un 1000 watts à lampe hein, bien sûr, mais c'est quand même très puissant. Et donc j'évoquais la possibilité sur le forum backstage d'en faire l'acquisition pour pouvoir justement en avoir le cœur net, pour être capable de brancher, bah, par exemple, voilà, une des utilisations, ça pourrait être de brancher tout simplement la sortie ici XLR dans le baffle, puisqu'on voit les entrées voilà, qui sont ici. Qui sont derrière ma tête, pardon, excusez-moi, l'entrée XLR, elle est là, mais c'est une entrée combo. Donc, je pourrais très bien prendre la sortie du Palmer et puis mettre ça sur le baffle et puis rouler jeunesse. Donc, d'une certaine manière, j'aurai un rig complètement analogique avec ce préampli à lampe, le Palmer pour faire l'émulation de HP et ensuite le Tone Master pour diffuser le son, quoi. Donc alors, j'annonce d'ores et déjà au backstager que je ne l'ai pas encore acheté, mais c'est très probable que je vais le faire. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens, est-ce que vous pensez, bah non, c'est une dépense à la con, on s'en fout, on est contre, etc. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité. Moi, j'avoue que je suis assez tenté, c'est pas un budget que ça fait partie de ce niveau de dépense, c'est un niveau de dépense que je peux faire sans trop y réfléchir sur la chaîne guitare. Ça me permettrait de savoir si c'est vraiment une option qui est valable, de le comparer avec le Head Rush, le FRFR 108 que j'ai ici, et puis de le prêter aux backstagers qui voudraient l'emprunter pour le tester chez eux ou lors de concerts. Il y a Vincent qui me dit pas d'atténuateur. Alors, il y a un réglage de volume, hein, tout simplement. Hein, j'affiche, il est où le tableau de bord, il est là. Donc, tu as un réglage de volume. Donc, à 1, tu dois être à 0. Enfin, j'imagine, comme tu dois avoir pas aucun son. Et puis, voilà, donc le volume sonore, il est réglable ici, puisque lui, il ne fait que amplifier. Donc, c'est pas, ça n'aurait aucun sens de mettre un atténuateur sur un ampli de classe D. Enfin, tu règles ton volume avec le bouton de volume, tout simplement. Et les tests, il y a pas mal de tests hein, qui sont disponibles sur YouTube. Voilà, les gens, y compris des tests non sponsorisés, on dit plutôt des bonnes choses. Donc, j'avoue que je suis assez tenté. La grosse différence avec le Head Rush, c'est que déjà, il ressemble à un ampli. Donc, vous pouvez vous pointer sur scène là-dessus. Et puis, il y a des gens qui vont même pas faire gaffe que c'est un baffle FR-FR. Et l'autre truc que je trouve très très bien, c'est qu'il y a une égalisation toute simple mais relativement efficace qui permet d'adapter assez rapidement le son du baffle FR-FR avec l'endroit où vous jouez. Ce que vous n'avez pas sur le Head Rush FR-FR 108 où vous avez juste un réglage de contour et puis c'est tout. Donc si votre son est pas bien, bah faut retoucher les réglages de votre modeleur ou alors de votre matos analogique si vous branchez du matos analogique dessus quoi. Donc voilà, c'est comme ça un petit peu que ça marche. Alors a priori, si j'en prends un, je prendrais le 12 pouces. Il y a des tests où il y a un YouTuber qui a fait un test où il avait les deux. Il avait même le FR-FR 108, le 10 pouces et le 12 pouces. Et il préférait le 10 pouces parce qu'il trouvait que sur le FR-FR 12 pouces, le son, enfin les basses étaient un petit peu envahissantes. Donc, faut pas forcément se dire, bah ouais, on est habitué aux amplis qui ont des gamelles de 12 pouces, donc faut forcément que le baff FR-FR soit de 12 pouces. Le FR-FR 108 que j'ai de Head Rush, c'est un baffle, c'est un HP 8 pouces, donc relativement petit, et pourtant il développe quand même pas mal de basses. Vincent, tu me demandes à quoi sert le cut ? Il sert à couper les aigus, voilà, tout simplement. Donc là où les trois autres réglages, ils permettent de régler en plus ou en moins, et ben un cut, il permet juste de régler les aigus, de baisser les aigus, en particulier si tu l'attaques avec des gros sons de bâtard, etc., des grosses saturations. En attendant de pouvoir le tester, si tu le testes un jour dans un magasin, il y a quelques vidéos qui sont assez bien faites sur YouTube. Alors c'est toujours très compliqué de faire un test d'ampli comme ça puisque par définition c'est un système de diffusion, donc faut pas mettre un micro juste devant, faut mettre un micro un petit peu plus loin qui capte un peu la pièce, donc c'est tout de suite un peu plus délicat, mais moi en tout cas les tests que j'ai vus, j'ai trouvé ça bien. Ceux qui l'ont testé, il y a John Cordy qui l'a testé, qui l'a trouvé bien, et j'aime beaucoup les vidéos de John Cordy, donc regardez ça, hein. John Cordy, si je dis pas de bêtises, FR-FR, je sais plus si on va le voir tout de suite. Alors est-ce qu'il parle du FR-FR ? Alors là, lui il dit qu'il a arrêté d'utiliser les FR-FR, mais c'était il y a quelques temps. Il me semble pourtant qu'il l'a testé le Fender, ou peut-être je me trompe, c'est un autre. Bon, enfin, peu importe. En tout cas, il y a certaines vidéos qui circulent où ça parle de ça allègrement. Voilà. Et oui, comme tu dis, hein, Vincent, hein, sur YouTube, ça écrase même beaucoup. Hein, c'est toujours ça, ça compresse, etc. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent, je ne sais pas vous comment vous faites, hein, mais moi, quand je regarde une vidéo, bien sûr, j'aime bien entendre un peu de son. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'analyse, le recul, le retour d'expérience que les gens ont par rapport à du matériel. Parfois, les séquences de jeu, bon, bah, une fois qu'on a entendu le son, c'est bien, on a besoin de quelques secondes, on n'a pas besoin de 5 minutes de jeu, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait comme question ? Je regarde ma petite liste. Il y avait Louis qui était là, qui est peut-être encore dans la chatroom, qui me posait la question, qui me disait... Hop là, j'ai perdu la question, elle est là. Il me parlait de Epiphone. Et il me disait quoi ? Tu as vu les tout nouveaux modèles Epiphone, qu'en penses-tu ? Niveau rapport qualité prix, équipement, etc. Alors, écoute, on va aller voir. Donc, alors je pense que tu parles de cette nouvelle série là qui vient de sortir de chez Gibson, qui est Inspired by Gibson Custom. Et en fait, la grosse différence avec ce que faisait avant Epiphone, c'est que là, comme vous voyez, vous avez la tête open book sur les modèles Epiphone. Ce qui n'était pas le cas, je pense, ça n'avait jamais été le cas avant chez Gibson. Voilà, donc c'est le cas pour les Les Paul, c'est le cas pour les ES. Il y a un autre modèle, là, le modèle de, enfin, qui s'appelait encore Les Paul, voilà. Donc ils les ont toutes sorties avec les books, les têtes open book comme ça. Donc hein, pour ceux qui se demandent pourquoi je dis open book, c'est parce que ici en haut, des fois que vous n'ayez jamais remarqué, eh ben, ça ressemble à un livre ouvert. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les têtes open book. Donc il y a plusieurs modèles de Les Paul, il y a plusieurs modèles de ES. Il y a aussi des acoustiques, il y a une très très belle Firebird One là, de 1963. Regardez cette couleur mauve, honnêtement, est sublime. Je ne sais pas comment ça sonne, mais je trouve ça très très joli, moi. Et il y a un modèle qui a aussi fait beaucoup de buzz, c'est celui-là, c'est le modèle Dave Grohl, donc de chez Epiphone. Alors, on est dans des prix qui sont peut-être un peu plus élevés que ce qu'on a d'habitude chez Epiphone. Ceux qui me suivent savent que j'en ai une d'Epiphone. Je vais essayer, est-ce que je peux essayer d'aller la chercher? Oui, je vais tenter d'aller la chercher. Voilà, elle est ici dans le rack à guitare. Et donc, c'est... alors, vous voyez, je suis raccord avec la guitare de Dave Grohl en plus. Hein. Donc, c'est une ES-339 Pro. Donc là, si je vous montre ça et que vous ne voyez pas ça, vous dites « Ah bah tiens, c'est une Gibson ». Et en fait, non, ce n'est pas une Gibson. Et donc, traditionnellement, les têtes Epiphone, c'était les têtes comme ça. Donc, avec voilà, ce resserrement comme ça. Alors là, on était sur une guitare. Je l'ai achetée au moment du Covid. J'ai dû la payer 400 balles, quoi, quelque chose comme ça. Hein. Alors, je l'ai emmenée chez DNG pour qu'il change le sillet, etc., qu'il fasse un réglage, qu'il change les cordes. Mais sinon, c'est tout et elle fonctionne très très bien. C'est très souvent une guitare que j'utilise pour faire du slide. Pas parce qu'elle est en open tuning, parce que c'est pas le cas, elle est en standard, mais c'est parce qu'elle est vachement bien. Alors bon, du coup, on peut se dire, bon, bah alors attends, là, Dave Grohl, donc c'est une 335, donc un peu plus grosse, qui est inspirée donc du modèle Trini Lopez, et on est quasiment à 1000 balles de plus par rapport au prix que je l'ai payé ici. Donc, alors, c'était il y a 3-4 ans maintenant, donc oui, ça fait un moment, on sait que tout augmente. Je pense qu'ils sont montés aussi en gamme. Hein. Là, on est sur une 335, c'est une guitare un peu plus grande. Voilà, il y a une tête un petit peu à la Firebird qui est un peu particulière. Moi, je ne les ai pas eues en main, donc je ne peux pas vraiment dire « Ah ouais, c'est vachement bien » ou « C'est pas bien » et compagnie. Comme vous, je suis allé jeter un petit coup d'œil sur les vidéos. Il y avait des gens qui testaient la Dave Grohl, qui trouvaient qu'elle était bien. Il y a eu des gens qui ont eu des problèmes de qualité avec. Hein. J'ai vu ça aussi passer. Je trouve que c'est un move qui est intéressant de la part d'Epiphone. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a quand même certains modèles de Gibson, d'Epiphone, pardon, qui ne sont pas avec la tête open book. Enfin, il y a la tête open book. Excusez-moi, je ne vous montre pas le bon écran. Elle est open book, mais ce n'est pas la tête Les Paul comme on a sur les... sur d'autres. Hein. Voilà, si je reviens ici à cette Epiphone ici. Voilà, que je mets en gros. Voilà, vous voyez que là, on a la vraie tête Gibson, ce qui n'était pas le cas sur celle-là ici. Alors bon, est-ce que ça veut dire qu'ils vont tout passer à la tête open book? Je ne sais pas, ou peut-être le haut de gamme de chez Gibson, de chez Epiphone, pardon, donc entre vers 1004-1005, qui va être avec la tête open book, et puis celle un peu moins chère, ça sera avec la tête Epiphone. J'imagine que ça sera ça. Voilà, en tout cas, enfin, à part parler un petit peu dans le vide comme ça, je ne peux pas les tester. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion de les tester. Voilà. Après, bon, quand on commence à parler de 1400 balles pour une Les Paul Epiphone, on peut trouver d'occasion des petites Les Paul, en tout cas des petits modèles chez Gibson qui sont presque dans ces prix-là. Donc l'écart, là je suis un peu malhonnête ce que je fais puisque je compare du prix neuf versus des Gibson d'occasion. Mais c'est un calcul qu'on fait souvent, donc voilà, c'est pour ça que je me permets de le faire avec vous. En tout cas, moi, les échos que j'ai entendus étaient plutôt bons. J'imagine que c'est un peu l'offensive de Gibson. Je me rappelle quand... ça y est, le nom est en train de m'échapper. Celui qui travaillait avant chez Norman's Rare Guitar, là, aidez-moi. Alors c'est pas Norman Harris parce que lui toujours c'est Norman Harris guitare. Mark Agnesi, voilà. Quand il a pris les rênes de Gibson, alors il n'est pas le président, mais enfin il est juste en dessous. Il avait dit, il avait annoncé déjà il y a quelques années qu'ils allaient redynamiser Epiphone. Donc je pense que là le move qu'ils font avec ces guitares avec les têtes open book, sortir le modèle Dave Grohl, voilà, qui est ultra populaire à 1400 balles, alors que je pense que le modèle Dave Grohl Gibson, on est à quoi? On est à 4000, quelque chose comme ça. On va voir les prix que ça nous sort. Donc là, 1400 balles chez Epiphone. Et chez Jean-Michel Gibson, on est. Donc la Trini Lopez, on est à 5008. Et là, il y en a une à 6000 balles. Là. Enfin, vous voyez, bon, on est à 4000 balles de plus. Hein. Donc, forcément, c'est quand même beaucoup plus cher. Donc, s'ils voulaient avoir le coolness factor de la Dave Grohl, eh bien, pour 1399, c'est possible. Voilà. Elle a une sacrée gueule, hein, je trouve. Hein. Moi, j'aime bien les guitares bleues. Hein. C'est d'où mon Epiphone 339. C'est vachement bien. Et c'est... Cette guitare, encore une fois, hein, tous les micros sont vachement bien. Là, il y a un double banding donc sur la table et sur le dos. La finition pailletée, regardez ça, est très très joliment faite. Honnêtement, moi, c'est une guitare, je n'ai rien à lui reprocher. Parce que je suis snob, des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien avoir une vraie 339. Puis je regarde les prix des 339. Je me dis, non, mais finalement, ma petite 339 à 400 balles à l'époque, eh ben, elle est vachement bien. Donc, je pense que je vais rester avec celle-là telle qu'elle est. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on lève la session? Parce que là, je me rends compte que ça fait déjà une heure que je vous cause dans le poste. Sinon, je vous rappelle les prochains événements. Donc, hein, demain, si vous êtes sur Paris et que vous avez envie d'écouter un chouette concert, parce que nul doute que ça va être un chouette concert, vous pouvez aller au Café de la Danse. Non seulement vous verrez Bobby, non seulement vous verrez l'excellent Glenn Arzell, mais en plus vous verrez Glenn Arzell jouer sur mon V-Twin Celt, puisqu'il est venu l'emprunter. Donc ça sera mon V-Twin. Donc d'une certaine manière, ça sera un petit peu moi qui jouerai au Café de la Danse, enfin surtout mon ampli. Voilà, donc ça c'est demain soir au Café de la Danse. Le 7 avril, à Montluçon, on s'éloigne un peu, c'est masterclass et concert de Jesse Lee and the Alchemist, donc avec l'excellent Alexis Didier, c'est organisé par Guitartitude, l'excellent Didier Bess. Le 27-28 avril, c'est le prochain événement de la chaîne guitare, enfin où la chaîne guitare va se déplacer. Ça sera le Montreux International Guitar Show, donc en Suisse. Ensuite, le 11 et 12 mai, donc au mois de mai, je serai au Japon pour retourner au Sound Mesa d'Osaka. Je suis en train d'organiser ça. C'est bien, bien excitant de retourner au Japon. Peut-être j'essaierai de rencontrer l'artisan japonais qui fabrique ses préamplis. Donc ça sera le 11-12 mai. J'en profiterai, je serai parti du 1 au 14 mai. Ça sera mi-vacances, mi-boulot, puisque j'y vais avec Carole, ma tendre épouse. On fait Paris-Tokyo cette fois, et donc je vais en profiter d'ailleurs pour aller visiter le méga showroom Fender sur 5 ou 6 étages à Tokyo. Il y a aussi le luthier Upeg qui est un peu dans le nord à Nagano, que je vais peut-être aller voir, sans doute aussi quelques magasins, et puis il y aura donc la couverture du Sound Messe de Osaka. Et on revient le 14 mai, et le week-end d'après, je serai encore barré, puisque je serai au Padova, au Guitar Show de Padova en Italie, donc juste à côté de Venise. Voilà, je crois que je vous ai tout dit cette fois, je crois que oui. Donc en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli entre vos deux oreilles si vous m'écoutez via le podcast. Si vous êtes encore dans la chatroom, bah, merci beaucoup d'avoir regardé jusque là. Si vous êtes en train de regarder le replay, bah, merci beaucoup aussi d'avoir regardé jusque là. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions, vous les mettez en dessous là, hein, juste un petit peu plus bas là. Vous cliquez sur le plus, vous cliquez la cloche, comme ça vous êtes au courant quand je suis en live. Et si vous avez des questions, voilà, vous pouvez les poster dans les commentaires. Je suis toujours ravi d'avoir cette interaction avec vous. Et pour ma part, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine, voilà, pour un nouveau live à 19h. Allez, bonsoir à tous et à toutes. Ciao, bye bye.